France Inter.
And they spoke to me and they just announced to me and then voilà.
I just spoke to Peter Howard.
Oh, he's on the phone. One second. Voilà, attends, one second. Peter, it's fantastic. Peter, you imagine? Is that great, no? Yes.
Yes, c'est Grete, c'est fantastique, c'est notre Philippe Aguillon national en octobre dernier. Ce spécialiste de l'innovation reçoit l'appel du comité Nobel qui lui annonce qu'il est coloréat avec ses confrères Joël Mokyr et Peter Howitt. Et donc en même temps qu'il répond et qu'il se réjouit, Philippe appelle Peter. Et pour tous ceux qui connaissent l'énergie vibrillonnante d'Aguillon, rien de surprenant, cet économiste-là n'est pas tout à fait un animal à sang-froid. Un cinquième prix Nobel d'économie pour la France, enfin. Une nouvelle positive. Pour le reste, cette année, on a surtout eu droit à la répétition d'un peu toujours les mêmes problèmes. Il suffit de regarder les scripts dont n'arrête pas l'écho. Par rapport à 2024, nous n'avons pas beaucoup discuté de la décarbonation de l'économie. En revanche, on a beaucoup parlé du détricotage du pacte vert en Europe. On a surtout énormément débattu de la puissance de la Chine, qu'il s'agisse de voitures électriques ou de Shein. Et puis parmi les sujets phares, le chamboule-tout de Donald Trump avec ses droits de douane et son refus de financer l'aide internationale. Et puis bien sûr, le grand sujet français, l'instabilité politique et ses conséquences économiques. Nous avons décortiqué le budget dans tous les sens et on y revient, et on y reviendra, régulièrement, impérieusement, car au fond de tout ça, il y a une grande angoisse. Peut-on sauver notre modèle social ? Mais vous qui nous suivez fidèlement, et merci pour cela, vous le savez déjà. Alors écoutez, pour la dernière émission de l'année, nous avons voulu vous offrir d'entrer dans une autre conversation. Devant nous, nous avons une heure de bonnes nouvelles en économie, d'idées différentes, de regards neufs. Alors restez avec nous, l'écho, good vibe, c'est tous ensemble jusqu'à 10h.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je déroule le générique de la belle équipe. Valentin Pérez, mon coproducteur, Étienne Bertin, notre réalisateur, Anne-Cécile Perrin, l'attaché de production, Théo Delobadère au mix et face à moi, David Dibouet-Black à la technique. Et sur notre plateau de fête, je salue la bande, Béatrice Mathieu de L'Express. Bonjour Béatrice.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Anne-Sophie Le Chevalier de Libération, salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Léo Klim de Der Spiegel, guten Tag, guten Morgen Léo.
Guten Morgen, bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Christian Chavagneux, le pilier.
Good morning Alexandra.
Vous faites ce que vous voulez, c'est comme vous savez bien, d'alternatives économiques. Tout à l'heure, vous tous, vous nous donnerez votre liste de livres, de docu et de BD, tout ce qui est à lire et à regarder pour finir joliment l'année et puis en commencer une nouvelle. Dans la série Jolies Choses, je vous signale aussi que nous sortirons du studio pour aller voir comment les grandes maisons du luxe et des métiers d'art vont au-devant de la jeunesse pour susciter des vocations, des envies. Ça recrute beaucoup dans la filière. Vous entendrez le reportage de Léa Gage. Mais d'abord, le défi donc de ce Mag'Éco, auditeur, auditrice, c'est de vous donner des bonnes nouvelles. Alors ne tardons pas, c'est parti.
Ça marche, ça fonctionne. Soit tu maigris, soit tu maigris.
Bilan de mon deuxième mois avec Ozempic.
Ça fait une semaine et demie que je prends Ozempic et j'ai perdu 7 kilos.
Wegovy, Ozempic, Saxenda, Mounjaro, tous ces médicaments, ils font partie de la famille des AGLP1, des médicaments qui sont indiqués dans le traitement du diabète, vous l'évoquiez, et aussi de l'obésité parce qu'ils aident en effet à perdre du poids.
Donald Trump, devant ses cartes et ses tableaux pour déclencher ce que l'on qualifiera de guerre commerciale. Le président américain impose de nouveaux droits de douane partout dans le monde.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Et voilà qu'aujourd'hui, le président s'aperçoit que des taxes sur certains produits font surtout et d'abord très mal aux États-Unis. C'est le cas de certains produits agricoles qu'on ne cultive pas aux États-Unis et dont les prix sur place ont explosé. Le président revoit donc une fois de plus sa copie sur le sujet.
On a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, hein. La grosse nouvelle de l'aérospatiale.
L'espace est désormais le théâtre d'une confrontation aux dimensions multiples.
Bromo, ouais. Airbus,
Thales et l'Italien Leonardo qui décident de s'allier pour concurrencer encore une fois l'hégémonie américaine.
Oui ou non pour vous, la taxation des riches, cette taxe Zucman, est-ce que c'est une bonne idée ?
Non, c'est une idée qui n'a aucun sens.
Je pense que la taxe Zucman n'est pas une bonne pige.
Nous sommes favorables à la taxe Zucman.
C'est toute la vertu de la taxe Zucman dont on parle beaucoup.
Et maintenant, nous devrions nous régaler de la seule taxe Zucman, mais ça ne suffit pas.
La taxe Zucman, j'en déduis que vous êtes contre.
Il est rare qu'un nom propre envahisse à ce point le débat public, surtout quand il n'est ni ministre ni député. Vous êtes donc l'économiste qui veut faire payer les milliardaires.
Il faut bien comprendre ce chiffre de 2% d'où il vient. Donc c'est 2% de la fortune, effectivement, et ce chiffre, il n'a pas été choisi au hasard. C'est le taux plancher d'imposition qui permettrait de s'assurer que les milliardaires payent autant que les autres catégories sociales. Pas plus, mais pas moins.
Les bonnes nouvelles qu'on vous a sélectionnées, celles qui ont eu lieu en 2025 et dont on veut encore vous parler. Béatrice Mathieu, je me tourne vers vous. Vous revenez sur cette révolution des traitements anti-obésité. Vous savez qu'on avait le patron d'un grand laboratoire à ce micro il y a 15 jours, mais je suis d'accord, on peut revenir sur le sujet, on l'a pas épuisé.
Alors, la bonne nouvelle, elle date du 1er décembre, hein, c'est assez récent, quand l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande en fait l'utilisation des fameux GLP-1, donc c'est la molécule de sémaglutide, pour le traitement de l'obésité. Alors le sémaglutide, ça c'est le nom scientifique en fait, le nom commercial en fait des stylos injecteurs, parce que c'est pas des comprimés, c'est le Wegovy, fabriqué par un laboratoire danois Novo Nordisk, ou Mounjaro, fabriqué par un laboratoire américain Lilly. Pourquoi c'est important?
Oui, pourquoi c'est une bonne nouvelle?
Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que on sait que par exemple en 2022, c'est encore l'OMS qui dit ça, il y a 3,7 millions de personnes dans le monde qui sont mortes, en fait, des conséquences de l'obésité. C'est plus que les trois pathologies infectieuses mortaises que sont la tuberculose, le paludisme et le sida combiné. Donc, c'est quand même une révolution médicale majeure. Il faut voir que le coût de l'obésité pour nos économies est considérable. Alors, si on regarde en France, il y a 18% de la population qui est en situation d'obésité. Il y a une étude qui a été faite qui évalue le coût du traitement en fait de l'obésité à environ 12 et 13 milliards chaque année.
En fait, c'est avec les comorbidités, n'est-ce pas? C'est avec les maladies
associées. Bien sûr,
associées.
Parce que ça entraîne effectivement, il y a 18 pathologies qui sont liées, qui sont entraînées par l'obésité. Donc là, ce coût de 12,7 milliards, c'est le coût pour l'assurance maladie, pour les mutuelles et aussi pour les entreprises, parce que quand vous êtes, hélas, malade, parce que c'est une maladie, hein,
c'est une épidémie,
c'est ouais. Une maladie, mm-hmm. Eh bien, vous avez plus de risques, effectivement, de développer d'autres pathologies, mais aussi de tomber en dépression. Il y a plus d'arrêts maladie. Et c'est aussi, il y a une double peine pour ces gens qui sont malades, parce que leur intégration sur le marché du travail est plus compliquée. Il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent, en fait, que le taux de chômage des personnes obèses est supérieur.
Là, vous nous avez parlé de la bonne nouvelle sanitaire, la bonne nouvelle sans doute, même si ça coûte cher, hein, pour les comptes de la Sécu, les comptes sociaux. Mais ça va bouleverser toute l'économie, en fait. Enfin, beaucoup, beaucoup de secteurs dans l'économie.
Tout à fait. Alors, c'est une bataille industrielle, parce que la caractéristique de ces médicaments, c'est que ça réduit ce que vous mangez, mais aussi vous mangez différemment. Et donc, l'industrie agroalimentaire est percutée de plein fouet par cette révolution. Et tous les géants de l'agroalimentaire, les Mars, Mondelez, mais aussi les Français, Danone, Dell, le Suisse, Nestlé, sont en train, en fait, à vitesse grand V, de revoir certaines formulations et, parce qu'il y a toujours du business aussi à la clé, sont en train de sortir des produits pour les personnes qui suivent ces traitements-là.
Des gammes spéciales, oui, Nestlé a déjà lancé sa gamme spéciale.
Tout à fait. Mmh. Et puis alors, il y a une bataille industrielle aussi entre les labos qui investissent des milliards et des milliards dans les recherches. Et c'est l'ère thérapeutique, toute maladie confondue, la cancéro, etc., où il y a le plus, en fait, de médicaments dans le pipe, dans les tuyaux, et qui sont en phase de test. Donc, révolution médicale incroyable, que certains médecins disent que c'est aussi important que la découverte de la pénicilline.
Ça, je ne l'avais pas entendu. D'accord. Révolution, Béatrice Mathieu. Autre révolution, Léo Klim. Vous ne regardez pas les silhouettes, vous regardez haut dans le ciel.
Oui, en effet, je voudrais relever une bonne nouvelle qui est fabriquée sur Terre, puisque un des rares segments qui sont vraiment très dynamiques et où il y a une dynamique européenne, c'est le spatial. Le réveil du spatial en Europe se confirme en 2025, avec notamment cette fusion décidée sur les activités satellites des entreprises Airbus, Thales et Leonardo, donc une entreprise italienne. En gros, c'est une fusion à dominante franco-italienne, et tout ça pour concurrencer Starlink, c'est-à-dire les petits satellites en orbite basse d'Elon Musk. Parce que lui est venu vraiment rafler en très peu de temps, en 4 ou 5 ans, quasiment la moitié du marché. Voilà, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, en contraste avec ce qu'on vit sur d'autres projets stratégiques importants pour l'Europe. Comme le système,
SCAF.
Voilà, le fameux SCAF, c'est le système de combat.
L'avion de combat, c'est ça.
Alors, élargi à un cloud, à des drones, etc. Projet franco-allemand qui est en discussion depuis 2017 et qui est sur le point en fait d'échouer parce que en raison des rivalités entre Dassault en particulier et ses partenaires allemands.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça marche pas tellement pour l'avion de combat, mais ça marche pour les satellites.
Je dirais qu'on comprend quand même qu'il y a une importance stratégique. Et moi, je loue cette fusion alors que l'acteur allemand de ce secteur reste à l'écart, qui s'appelle OHB, et que c'est donc plutôt une fusion qui se fait sans les Allemands. Mais il faut retrouver une souveraineté européenne, se développer technologiquement si on veut exister dans ce secteur qui prend une importance aussi commerciale, avec une croissance annuelle qui devrait avoisiner les 10%. Alors, le projet s'appelle Bromo, on l'a entendu dans le son, c'est très bizarre, ça sonne comme bromance, comme une espèce d'amourette entre masculine. En vrai, c'est le nom d'un volcan indonésien très en activité, ça pourrait faire une émission en soi, de parler un peu des noms de projets, des bizarreries des managers, ce qu'ils inventent. Voilà, donc ici c'est Bromo. En tout cas, pour résumer, ça bouge beaucoup en Europe sur le spatial, donc ça c'est une très bonne nouvelle. L'Agence spatiale européenne vient d'obtenir 22 milliards d'euros de financement, autant qu'elle avait souhaité, ce qui est quand même un exploit dans ces temps où de disette budgétaire partout. On a la start-up phare franco-allemande The Exploration Company qui avance très vite.
La start-up de Hélène Huby.
Exactement, est spécialisée sur les navettes réutilisables de fret pour le spatial, qui vient d'inaugurer un centre de contrôle près de Bordeaux. Il y a d'autres exemples encore. Il devrait y avoir 4 start-up de petites fusées françaises qui vont faire des vols d'essai en 2026. Et je trouve que l'Europe montre qu'elle existe encore sur un domaine important.
Et qu'elle bouge vite, là.
D'avenir, et que c'est une très bonne nouvelle dans cette année plutôt difficile 2025.
Vous avez raison, Léo. Christian Chavagneux.
Oui, quand les États se mettent d'accord au niveau européen, et d'un côté, quand les grands acteurs privés se mettent d'accord de l'autre, c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Airbus, on l'a eu comme ça. Même Concorde. Concorde, c'était un échec commercial, mais ça a été une réussite technologique absolument incroyable. Dès que les pays européens et dès que les acteurs privés européens se mettent d'accord, ça fonctionne. Quand ils ne se mettent pas d'accord, on a eu le plan calcul, par exemple, des années 70. Les Français ont vu que l'informatique, ça allait être vraiment une des industries d'avenir. Malheureusement, Valéry Giscard d'Estaing a planté le projet. C'est dommage. Il n'y a que quand le privé et le public fonctionnent ensemble que ça peut se développer en Europe.
Béatrice Mathieu, notre spécialiste d'Elon Musk.
Je viens plomber l'ambiance, je suis désolée,
ah,
Léo.
Non, c'est notre séquence bonne nouvelle.
Non, mais je pense que l'avantage en fait qu'a pris Musk sur la technologie en fait de l'internet par satellite est tellement considérable, d'autant plus qu'il y a un autre MAGA qui est dessus, c'est Amazon, et qui avance énormément avec lui aussi ses satellites Kuiper. Et donc les 22 milliards, là, c'est même pas ce que dépense Amazon en 6 mois. Donc, je veux dire, Amazon avance extrêmement vite sur ce sujet-là. Il y a une offre commerciale qui arrive en Europe, à destination notamment des industriels pour faire de l'Internet sécurisé. Donc, un petit peu peur que sur ce sujet-là, je suis d'accord que sur les navettes réutilisables, ce que fait Hélène Huby est assez incroyable, mais sur la technologie là,
on arrive un peu après la bataille, hélas.
Je suis d'accord, mais moi je refuse votre fatalisme parce que c'est quand même un secteur tellement important. On a une obligation d'efficacité européenne, ça c'est vrai. Et ce qui est vrai aussi,
et de souveraineté.
On ne pourra pas rester sur les lourdeurs européennes. Par exemple, quand on voit que cette fusion pourrait mettre un an et demi avant d'être effective à cause de l'antitrust européen, oui, il y a
autorité de la concurrence.
On peut effectivement se poser des questions, mais l'Europe est en danger existentiel et c'est un des domaines où il faut maintenant s'affirmer.
Allez, on continue avec les bonnes nouvelles. Christian Chavagneux, je reconnais bien votre espièglerie. On me dit que vous avez une bonne nouvelle avec le mot Trump.
Mais évidemment, parce que pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on commence à voir les résultats de la politique économique de Trump et je peux vous l'affirmer, c'est un échec total. Donc il faut quand même se réjouir. Le populisme économique à l'américaine, ça ne fonctionne pas. Les droits de douane, bon, ça a été le grand débat évidemment de l'année dernière. Ça commence à faire monter l'inflation. Donc les Américains, on l'a entendu dans le zap du son, ils commencent à pas être d'accord. C'est l'arroseur arrosé. Pour ceux qui ont suivi la campagne de Trump, qui disaient Biden, c'est la hausse des prix, ça détruit le pouvoir d'achat, boum, ça lui revient en pleine figure. Il multiplie les exemptions, d'ailleurs, selon un dernier calcul du mois de décembre, c'est que là, à peu près la moitié des importations américaines ne sont pas touchées par les droits de douane. La guerre commerciale avec la Chine, il a tout planté, les Chinois ont dit, vous aurez plus de terres rares, et du coup, Trump, il a tout de suite descendu la pression vis-à-vis de la Chine. Droits de douane, plus sa politique budgétaire qui favorise les très riches, qui tape sur les budgets des transferts sociaux et sur les bons alimentaires. Maintenant, on sait que pour l'année prochaine, en gros, les 10% les plus pauvres, 20%, 30%, jusqu'à 80%, tout le monde perd. Jusqu'à 90% tout le monde perd, il n'y a que les 10% les plus riches qui vont gagner. Donc évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup de mécontents. La politique monétaire, Trump a dit, je vais nommer mon conseiller économique. Les marchés ont dit, si tu fais ça, on n'est pas d'accord. Du coup, boum, le pauvre gars, ça...
Là, c'est à la Fed, n'est-ce pas? Vous parlez de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine.
Exactement. Ouais. Donc le pauvre gars, on voit que dans les paris, sa cote diminue. Donc Trump va devoir nommer quelqu'un d'autre. Et même s'il arrive à nommer un affidé, vous savez que c'est très compliqué les votes à la Banque centrale américaine parce que vous avez des gens qui sont là en permanence et des gens des banques, des Feds régionales qui tournent. Et les quatre qui vont arriver en janvier prochain, c'est pas du tout des pro-Trump. Ils veulent pas du tout baisser les taux d'intérêt à fond. Donc sur la politique monétaire, il va pas avoir son influence. La justice qui commence à dire « Oh là là, t'as nommé machin, ça va pas. Tu attaques des gens pour des vengeances personnelles. » Par exemple, l'ancien patron de l'FBI, retoqué complètement. Et puis, il y a quand même... Alors c'est vrai, il y a une mesure. Trump a annoncé. Il l'a fait et ça marche, malheureusement, pour les boîtes américaines parce qu'il réduit le stock et le flux de migrants. Quand vous regardez les stats sur les migrants clandestins qui essaient de rentrer aux États-Unis, c'est pratiquement zéro. Ça s'est complètement effondré. Et comme il vire quand même pas mal de gens, il a vidé aussi le stock aux États-Unis. Sauf que maintenant, les boîtes commencent à dire, notamment dans l'hôtellerie et restauration, on voit les salaires qui remontent, les très bas salaires, parce qu'il manque de gens.
De bras,
donc, oui, ça marche, mais là, ça cause des problèmes pour les entreprises. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est une forte baisse de la popularité de Trump aux États-Unis. Quand vous avez des stats sur tout, vous pouvez mesurer l'indice de confiance des consommateurs républicains et démocrates. Eh ben, l'indice de confiance des consommateurs républicains, évidemment, il reste positif, mais très, très, très largement en dessous de ce qui s'était au moment du premier mandat de Trump. C'est l'échec total, y compris auprès de sa propre base.
Et donc, bonne nouvelle peut-être pour les Européens?
Bonne nouvelle pour les Européens, bonne nouvelle pour les Américains, parce qu'il y a des élections à l'automne, les élections de mi-mandat, les mid-term, et si Trump continue sur la lance dans lequel il est, il va complètement perdre les élections.
Tout le monde est d'accord avec la vision de Christian Chavagneux, Léo Klim, petite grimace.
Non, mais je suis d'accord sur l'analyse. Par contre, ensuite, je vous trouve assez optimiste sur la démocratie américaine que Donald Trump s'attache à détruire à vitesse grand V et qu'il ne respecte pas beaucoup.
Béatrice Mathieu.
On n'est pas, l'économie américaine n'est pas au bord de la récession, donc on en est quand même un petit peu loin, même si ça ralentit. La deuxième chose, c'est que paradoxalement, l'arrivée de Trump et ce qu'a fait Trump, a provoqué le réveil européen. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça fait le lien entre les deux sujets.
Je l'avais pas vu venir. Allez, dernière bonne nouvelle de notre liste, c'est celle d'Anne-Sophie Le Chevalier. La taxe Zucman, un thème dont on a énormément parlé. Pour vous, alors la taxe Zucman, elle n'existe pas.
Alors voilà, ça peut vous paraître étrange, ouais. En effet, puisqu'elle n'est pas instaurée. Donc, on parle de l'impôt plancher sur les milliardaires, dont le patrimoine dépasse 100 millions d'euros, une taxe à 2%. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, déjà, parce que c'est une idée qui chemine, si on prend l'histoire, l'échelle de l'histoire des idées à vitesse grand V, parce que le un des constats les plus établis date de 2003. C'était l'Institut des politiques publiques qui a montré que, avec des données, que plus on est riche et parmi les milliardaires les plus riches des plus riches, ne contribuaient pas en proportion de leurs revenus. Donc ça, c'était le constat. Après, la question, c'est comment on résout. Donc là, il y a Gabriel Zucman, il y a 2 ans seulement, qui a fait sa proposition d'impôt plancher. Il l'a promu à l'échelle mondiale. Si vous vous souvenez, l'année dernière, le président Lula, quand il y avait le G20 sous présidence brésilienne, avait discuté de cette idée. Et puis en France, ça a pris l'importance qu'on a pu entendre tout à l'heure, au moment des discussions budgétaires. Et il faut bien rappeler que 2%, c'est 20 milliards d'euros pour la France, enfin, selon les calculs de Zucman, et cela effacerait la régressivité de l'impôt, mais ça ne rendrait pas le système plus progressif. Ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, pas plus, mais pas non plus moins. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça a permis des débats intenses. C'était porté par la gauche, on a vu que le RN s'était abstenu en février et a voté contre ensuite. Et puis, on a vu aussi ce que les Français en pensaient à travers plusieurs sondages. Et là, on s'est rendu compte que, quelle que soit leur affiliation politique, le principe de cette taxe était massivement soutenu. Donc finalement, la dégressivité de l'impôt, parce que ça va à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, eh ben, c'est pas être de droite ou de gauche que de trouver ça inacceptable. Après, la question, c'est comment on résout ça. Et là, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que on a pu en débattre pendant des semaines, on a pu parler rendement, on a pu réfléchir à comment faire pour que les ultra-riches ne s'exilent pas, on a pu parler bien professionnel, on a entendu des gens dire que quelqu'un n'était pas forcément riche, il était propriétaire d'une entreprise valorisée des milliards, et puis la réaction offusquée des premiers concernés, à savoir les milliardaires, montrer que peut-être sa vie est juste. Je vous repasse Bernard Arnault qui a traité Gabriel Zucman de militant d'extrême gauche qui voudrait mettre à terre l'économie, remettant même en cause ses compétences universitaires. Il y avait cette formule de Stiglitz dans Libé en octobre qui disait « Je trouve remarquable le nombre de personnes très riches prêtes à lever la main et à dire « Je suis un fraudeur fiscal ». S'il payait déjà un impôt minimum, il ne s'y opposerait pas. » On peut imaginer que le débat va ressurgir pendant les campagnes présidentielles, 2027, législatives, oui. Et puis à l'étranger. Je signale quand même qu'un référendum qui propose d'instaurer une taxe à 5% est proposé en Californie en novembre prochain, et que le G20, dans sa dernière déclaration, considère comme un impératif de s'attaquer aux disparités de richesse et de développement, tant au sein des pays qu'entre eux.
Ok, Léo Klim se précipite sur le micro. Léo, oui. La taxe Zucman, c'est-à-dire tout ce qui a été mis sur la table, une idée qui progresse, ça c'est la bonne nouvelle d'Anne-Sophie Alors, Le Chevalier.
Moi je dirais que j'aurais classé parmi les bonnes nouvelles de l'année que cette idée ne soit pas devenue réalité. Parce que vraiment on a assisté à un coup de mentalisme économique incroyable de la part de ce jeune économiste qui a, avec une habileté impressionnante, utilisé la gauche française pour se faire connaître et faire connaître son idée.
Oh, il était déjà connu, vous êtes dur, hein, Gabriel.
Il a monopolisé au-delà des cercles économiques la parole. Et moi, je ne conteste pas la nécessité de lutter contre l'optimisation fiscale. Mais si l'on veut qu'il y ait des investissements dans les entreprises françaises, il ne va pas falloir taxer de 2% chaque année les biens professionnels.
Oh là là, quel conservateur celui-là, c'est incroyable.
Allez, c'était les infos éco préférées de la bande, et vous voyez, il y a déjà du débat pour commencer l'année. Tout ça nous fait un petit baluchon d'idées neuves pour démarrer 2026. Vous êtes au cœur d'On n'arrête pas l'écho, c'est notre menu de fête. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour le grand déballage, le unboxing de livres, de BD, de docu. Chacun va donner ses coups de cœur de l'année. Mais d'abord, continuons avec une bonne nouvelle et un secteur qui rayonne et qui recrute. C'est celui des métiers d'art, d'horreur, tailleur de pierre, plumassier, joaillier ou encore facteur d'instruments. On en recense 281 au total. Le secteur va bien, 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9 milliards à l'export. Le luxe à la française, ça fait envie à la planète entière. Et 500 000 d'actifs travaillent aujourd'hui en France dans ces métiers d'art, dans 234 000 entreprises. Je donne les chiffres, c'est important parce que là, vous voyez, on est souvent sur des toutes petites structures. Donc, tableau réjouissant, mais il y a un mais. Toute une génération de ces artisans éblouissants va bientôt partir à la retraite. La filière s'organise donc pour tenter d'attirer de nouveaux talents dès le plus jeune âge. Notre reporter Léa Gedge nous emmène donc ce matin à Lyon pour une de ces opérations séduction. Des collégiens participent à des ateliers organisés par un grand joaillier de la place Vendôme. Ils découvrent ces jeunes des métiers auxquels beaucoup n'auraient même jamais songé.
Donc, on va commencer par prendre une lime avec un gros grain. Vous appuyez vos pieds dans le sol. Et là, vous poussez et vous essayez de suivre le mouvement du motif. Je m'appelle Alizé, je suis bijoutière joaillière chez Van Cleef & Arpels depuis janvier 2025. J'ai mis du temps à trouver ma voie. Ça me plaît de le partager à des jeunes parce que moi, j'imaginais même pas que ça existait ou c'était pas dans mon champ de vision, quoi. Alors, attends, juste comme ceci, au moins le plat, il est bien comme ça. Et regarde, tu vois, c'est ça que tu dois limer.
Je m'appelle Jamily, je suis en quatrième et j'ai 13 ans. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de limer une pierre.
Ça te plaît ?
Oui, j'adore ça. Ce qui me plaît, c'est les formes, les motifs et les couleurs. J'aime bien aussi la matière, les techniques qui sont pratiquées, mesurer, limer, polir les pierres. Mettre à la lumière et voir s'il y a des petits défauts, par exemple des taches, des points ou des rayures. J'aime la minutie. Si on veut faire ces métiers, on aura déjà des notions.
Du coup, là, on a la troisième étape, en fait, pour polir le bijou. Donc là, maintenant, c'est pour le rendre vraiment brillant à fond.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Moi, c'est Axel et je suis un élève en quatrième, du coup. Et je suis très content parce que ça fait du bien de tester de nouveaux métiers et parce que c'est amusant aussi, voilà. Donc on fait comme ça, on vient l'aplatir, puis comme ça, et on fait ça sur tous les côtés. J'aime beaucoup faire des choses avec les mains.
C'est pas mal, ça. T'as vu, regarde la différence entre avant, après.
C'est vrai qu'il y a une grosse différence.
C'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'au départ, on a une matière qui est brute et on la travaille et on la fait évoluer. Ouais. Elle est de plus en plus belle, plus en plus brillante. T'as pas fait encore la lacette ?
Non.
Pour aller à l'intérieur, tu vois, hop.
Ouais.
On tend bien le fil. Et regarde comme ça fait
brille. Oui, c'est vrai que comparé aux autres côtés, ça brille.
Bah ouais, regarde.
Ouais.
Tu as bien travaillé en tout cas.
Merci.
Et bah hop, le petit tampon, voilà, validé au polissage. Premier certificat de polissage de la nouvelle génération.
Merci.
Axel, Jamily, mais aussi Salomon ou Iris, ils sont plusieurs dizaines de collégiens lyonnais à participer à cette initiative de la maison Van Cleef & Arpels, baptisée de Mains en Main.
Bonjour, Marie Floc, enchantée, je suis responsable de l'événement de Mains en Main.
Développé en partenariat avec l'Éducation nationale, ce parcours permet de découvrir les métiers de la joaillerie.
Le joaillier, le polisseur, le sertisseur, l'expert pierre, le concepteur 3D et les mailleurs.
Ce programme a été lancé en 2021.
C'est vraiment dans cette idée de montrer nos métiers, montrer que c'est possible. C'est pour ça que là, nous accueillons plutôt des classes de 4e et qu'on fait l'accompagnement jusqu'à la 3e. Et puis après, de toute façon, le CAP, on peut le faire après son bac. Et on a l'avantage de le faire en un an, versus 2 ans. Donc, il n'y a pas d'âge, mais effectivement, 4e, 3e, c'est aujourd'hui là où on nous demande de prendre une orientation. Donc en fait, on les accompagne. Visiter l'atelier, visiter une école de joaillerie pour comprendre si jamais ça les intéresse, comment se former à ces métiers.
Attirer les jeunes générations dans les métiers d'art, c'est le défi à relever dans les années à venir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, un salarié sur 4 détenant un savoir-faire d'exception a plus de 55 ans et approche donc de la retraite. Bénédicte Épinay est présidente du Comité Colbert, l'association qui représente le secteur du luxe en France. Je la retrouve dans son bureau, au centre de Paris.
Les moins de 25 ans représentent moins de 10% des effectifs. Or, il faut 10 ans pour former un bon joaillier, un bon maroquinier, un bon orfèvre. Donc vous voyez tout de suite l'équation. C'est très important de s'en préoccuper maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes choisissent de faire un CAP par choix et non par défaut, parce que le professeur a dit « tu ne seras pas capable de passer ton bac ». Ce sont des métiers dans lesquels on s'épanouit, dans lesquels on peut tirer derrière des grandes carrières. Et puis aussi, il faut tordre les idées reçues. Ce sont des métiers dans lesquels on gagne sa vie et on la gagne plutôt bien. Et ça recrute, nous cherchons 20 000 artisans entre maintenant et 2030 pour remplacer cette génération qui va partir à la retraite dans les 5 ans à 10 ans à venir.
Transmettre des gestes pour conserver des savoir-faire d'exception, comme la passementerie, la plumasserie ou encore l'impression de papier peint à la planche. Pour découvrir cette technique artisanale ancestrale, je me rends dans les ateliers de la maison Zuber, près de Mulhouse.
Bonjour.
Bonjour Léa.
Bienvenue à la manufacture Zuber. Je suis Hélène Délinger, donc la responsable de manufacture.
Vous nous emmenez pour visiter l'atelier ?
Oui. Allez-y, suivez-moi. Donc là, les imprimeurs panoramiques sont en train d'imprimer un décor qui s'appelle le décor chinois, qui date des années 1830. C'est un petit décor pour nous parce qu'il n'a que 387 planches, mais c'est un décor parmi les plus complexes à cause de la multitude de techniques, les irisés et les dégradés qui sont présents dans ce décor. On va aller voir Khalid, qui est donc l'imprimeur panoramique le plus ancien de la maison. Bonjour.
Bonjour. Ce décor, il est imprimé avec des planches en bois. On a un bac, il y a de l'eau en dessous et on tapote la planche sur une feutrine sur laquelle on a étalé la couleur, comme ça. Voilà, et je pose, mais la précision, vous voyez, il faut être vraiment précis, concentré. Et là, je presse. Pour faire un seul décor panoramique, il nous faut un an de travail. Ça me tient à cœur de transmettre parce que maintenant on est âgé, on va bientôt partir. Moi, ça fait 36 ans que je suis là, c'est mon bébé. Alors, j'aimerais bien que les jeunes apprennent ce métier-là et prennent le flambeau pour que ça ne disparaisse pas. Marie, elle vient d'arriver, elle est en formation, elle apprend vite.
Vous êtes arrivée quand, Marie ?
Ça fait 2 mois, donc c'est tout nouveau.
Ah ouais ?
On fait des choses qui sont belles. Au contact des matériaux tout le temps, quoi. On travaille avec le bois, on travaille avec les couleurs, on travaille avec le papier, c'est des matériaux assez nobles. C'est très agréable de rentrer le matin et d'avoir toutes ces odeurs spécifiques à un atelier comme on n'en trouve pas ailleurs, quoi. Trouver la justesse à travers le geste, c'est quelque chose qui est très beau à faire et qui est très plaisant.
Certains métiers des arts décoratifs, comme celui d'imprimeur à la planche, ne disposent pas de cursus spécifique de formation. Enseigner ces compétences d'exception, c'est la mission des Manufactures Nationales, un établissement public lancé il y a tout juste un an. Isabelle Dudognon est chargée d'y développer un centre de formation des apprentis.
Il y a une vingtaine de métiers dans les arts décoratifs pour lesquels il n'y a pas de formation initiale aujourd'hui et pour lesquels, du coup, les entreprises de savoir-faire ont du mal à recruter. Nos perspectives, c'est d'ouvrir déjà 3 formations pour 2026, pour la rentrée, donc le métier de parquetteur. Notamment, là, aujourd'hui, on a tout un parc d'immeubles haussmanniens avec des parquets qui vont commencer à être un peu fatigués et restaurés. Une formation aussi au métier de chef de projet teinture. Et puis, sur des métiers autour de la conduite d'installation de production. Autour de l'ourdissage, de la mise en carte, du tissage. Donc on va ouvrir des formations avec souplesse pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises sans pour autant former des jeunes qui n'auraient pas de débouchés à la sortie.
La création du Centre de formation des manufactures nationales s'inscrit dans une série de politiques publiques engagées en faveur des métiers d'art ces dernières années. Dernière mesure en date, en 2026, le gouvernement compte lancer un brevet national des métiers d'art. 3 ans de formation et d'apprentissage à partir de la classe de 3e. Gabrielle Légeret est directrice de l'association De l'or dans les mains, qui propose des ateliers de travaux manuels dans les écoles. En 2023, elle était la référente jeunesse du plan gouvernemental de 340 millions d'euros, lancé pour soutenir la filière.
C'était la première fois depuis des années qu'une politique publique émergeait en faveur des métiers d'art. Et ça a eu le mérite de vraiment consolider l'écosystème pour penser des politiques publiques efficaces. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire perdurer ces politiques publiques, de les renforcer, parce qu'on n'est qu'à la moitié du chemin. Il y a des craintes de la part des artisans sur la TVA, par exemple, parce que la majorité des artisans d'art sont des micro-entrepreneurs. Il y a des craintes sur l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un levier de transmission de ces métiers. Et aujourd'hui, ça devient compliqué et cher d'embaucher un apprenti. La survie des artisans et de l'artisanat en France tient quand même aussi beaucoup à des problématiques de concurrence déloyale tant qu'on laissera rentrer sur nos territoires des objets qui ont été conçus à bas coût, dans des conditions qui laissent à désirer, on ne permettra pas aux artisans de vivre complètement de leur métier.
Métier d'art, le défi de la transmission des savoir-faire, c'était le reportage de Léa Gage.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Vous êtes toujours dans On n'arrête pas l'écho, notre émission de fête, et c'est le moment de passer au coup de cœur. On n'arrête pas l'écho à déballer ses paquets. Il y avait de bonnes choses encore cette année à regarder et à lire. Béatrice Mathieu, je voudrais vos deux conseils.
Alors, le premier est un livre français écrit par l'économiste Maxime Sbahy, Les balançoires vides, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire, avec comme sous-titre Le piège de la dénatalité. Alors, ça résonne hein, avec les chiffres qui ont été annoncés assez récemment par l'INED, qui montre que pour la première fois depuis les 30 Glorieuses, en fait, il y a eu plus de décès en France de naissances. Alors, il pointe trois éléments que j'ai trouvé assez intéressants, qu'il n'y a pas moins de désir d'enfant, en fait, mais plutôt un renoncement à l'enfant lié en grande partie à des conditions économiques et notamment, il développe beaucoup la question du prix du logement et puis il développe en fait toutes les conséquences économiques puisque la baisse des naissances, eh bien, c'est à terme une baisse de la population active, ce qui pose des problèmes considérables sur le financement de nos modèles sociaux et on ne va pas revenir sur les débats des retraites. Alors le deuxième livre, c'est un livre en anglais de Carl Benedict Frye. Alors lui est économiste et historien. Il enseigne à Oxford et il a sorti un livre passionnant qui est à la fois un livre d'économie et d'histoire sur How Progress Ends, où il montre comment...
Et vous nous faites la traduction.
Voilà,
aussi.
Donc comment le progrès finit. Enfin, voilà, ouais. Et il montre, en fait, le sous-titre, c'est Technologie, innovation et la chute des nations. Et l'idée aussi très originale de ce livre, c'est que finalement l'innovation technologique n'est pas le gage, en fait, d'un progrès durable des sociétés. Il prend plein d'exemples. Il parle de la Chine, la révolution victorienne, etc. Il commence le livre par l'URSS en 57, où il dit que ça a été le premier pays à lancer Sputnik 1. Et on voit, c'était le premier satellite et on voit l'effondrement en fait, dans les décennies qui suivent en fait, de l'économie soviétique.
Bah alors, Philippe Aillon, il attend alors.
C'est exactement ça. Ce que je me disais.
Et j'aimerais bien, j'adorerais faire un débat à Guillaume Frey, ça doit être passionnant. Et en fait, il met en garde sur les mirages de l'intelligence artificielle et de la supériorité américaine.
Et c'est chez Princeton University Press, tandis que le livre de Maxime Sbahy, il est aux éditions de l'Observatoire. Bien sûr, on va mettre toutes les références, si on en oublie de vous en donner à l'antenne, sur le site internet. Tant que nous sommes aux États-Unis avec un économiste américain, je donne la parole à Léo Klim, recommandation d'un best-seller, Léo.
Absolument. Je vous parle d'un beau livre qui s'appelle « The Atlas of Finance », qui existe aussi en français, je vais y revenir, par le professeur Darius Wojcik, professeur de géographie financière à Singapour, et puis avec la collaboration d'un cartographe et d'un graphiste. Et ce livre est assez génial parce qu'il est très instructif, il est distrayant, il est accessible à absolument pour tout le monde, et il apporte quelque chose, donc qu'on soit expert de la finance, de l'économie, ou qu'on veuille juste s'y intéresser, par exemple, des lycéens qui voudraient découvrir l'économie, c'est parfait. Donc on a un accès par la géographie et par les infographies et on apprend par exemple ici c'est une Française, une femme française qui trustait au XVIIe siècle tout le domaine de l'assurance maritime dans le monde, Elisabeth Elissant. Et puis voilà, plein d'autres choses, le marché contemporain des footballeurs, le marché de l'art, comment le smartphone s'est transformé en instrument financier dans nos mains. Pour être transparent, donc j'ai découvert...
Ouais, soyons transparents, voilà. Je ne vous ai rien demandé, on est d'accord?
Exactement.
Rien de rien.
Parce que, donc moi...
Vous l'avez d'abord offert à votre fille.
Je connaissais cette version anglaise de l'Atlas et je découvre en préparant l'émission que ça existe en français aussi depuis pas longtemps et que c'est préfacé par vos soins, Alexandra.
Voilà, et c'est aux éditions du Seuil. Très bon livre, mais je ne vous ai rien demandé. autre recommandation, Léo, aux éditions de l'Aube, cette fois.
Rapidement, Patron, la tentation de Trump, par Denis Laffey. C'est un essai qui nous aide en fait à nous préparer à penser la question centrale des prochaines années en politique. Comment est-ce que les grands patrons, je parle bien des grands patrons, pas des patrons de PME, des artisans, etc., qui sont déjà acquis à la cause largement de l'extrême droite, mais les grands patrons en France, en Allemagne, comment est-ce qu'ils vont se comporter face à l'extrême droite et, disons, la possibilité assez réaliste qu'elle arrive au pouvoir. On se rend compte que ces mêmes entreprises qui mettaient en avant des valeurs de diversité, qui n'ont pas vraiment un intérêt à être à fond anti-immigration, peuvent se coucher comme l'ont fait les patrons américains devant Trump. Et il y a un point central, l'auteur développe une réflexion autour de cette idée de l'homme fort, du décideur, parce que le chef d'entreprise a du mal à accepter que ça ne fonctionne pas comme en entreprise, qu'on décide d'une chose et que ce soit exécuté immédiatement. Et c'est là que le populisme des grands patrons peut rejoindre le populisme de monsieur et madame tout le monde, d'avoir du mal à accepter que la démocratie peut être lente et fastidieuse.
Ça fait une charnière parfaite. Je vous vois acquiescer, Christian Chavagneux, avec votre conseil de lecture.
Ouais, je voudrais compléter le choix de Léo avec le livre de Laurent Mauduit, Collaboration, enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires. C'est l'édition La Découverte. C'est un livre vraiment effrayant parce qu'on a l'impression de se retrouver dans les années 30. Avec la gauche, aucun compromis n'est possible pour ces grands patrons dont vient de parler Léo. Par contre, avec l'extrême droite, la collaboration, c'est-à-dire l'acceptation, l'accoutumance, le soutien, voire pour certains grands patrons, la convergence idéologique avec l'extrême droite est tout à fait possible. Et pour aller encore plus dans le sens du choix de Léo, c'est que la tentation libertarienne à la Musk, à la Peter Thiel, à la Trump est aussi très très présente. C'est l'idéal d'une économie sans État, sans protection sociale. Et ça, c'est l'enquête vraiment très très précise de Laurent Mauduit qui malheureusement le montre dans le détail.
Deux livres forts sur la politique et les chefs d'entreprise. Christian, vous avez aussi un chouette documentaire.
Constantin va créer une nouvelle pièce d'or qui s'appelle le Solidus. Solidus, en latin, ça veut dire le stable, en quelque sorte. C'est celui sur lequel on peut s'appuyer, qui est solide. Et cette pièce Solidus va devenir en ancien français sol et sous en français moderne. L'origine des sous, c'est Constantin et cette nouvelle pièce d'or.
La fabuleuse histoire de l'argent, Christian Chavagneux, c'est donc une série d'Arte.
C'est une série d'Arte, tout à fait, en 4 épisodes. J'ai trouvé 3 points intéressants. C'est qu'on fait plus parler des archéologues que des économistes, et donc ça décale un petit peu le regard. On a tout un épisode sur la Chine, notamment comment les monnaies sont sorties, mais aussi les billets. Il fallait tout simplement une technologie de papier innovante pour arriver à faire ça. Et puis, comme ce ne sont pas des économistes, ils ne nous font pas le lien entre l'argent et les échanges ou la puissance. Ils nous font ça, le lien entre la monnaie et les conflits armés à travers l'histoire, et ils montrent comment les deux sont liés, c'est assez passionnant.
Et la petite pépite, le bonbon, vous avez une curiosité tous les ans.
Là, j'adore. Alors, le bouquin est un peu épais, peut-être un peu trop dans le détail, mais c'est quand même génial. C'est l'incroyable imposture du Fakir Birman, ça livre d'Olivier Carigel. C'est une enquête historique sur Charles Fossé, donc, qui s'appelle Charles Berkel, son pseudonyme. C'est un escroc de l'entre-deux-guerres, vous savez, Alexandra, que j'aime beaucoup les escrocs. Il a bâti sa fortune, donc Charles Fossé, avec deux comédiens qui jouent le rôle du Fakir Birman. Donc, c'est très à la mode, les numéros sensationnalistes, un peu teintés d'exotisme colonial. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est le moment de développement des loisirs urbains, le cinéma, mais le musical aussi. Mais surtout, surtout, son idée de génie, c'est développer l'astrologie de masse. Pourquoi aujourd'hui, à la radio, pourquoi dans les journaux, on a l'astrologie? Parce que M. Charles Fossé a utilisé la pub, la radio, ce média innovant de l'époque. Bien évidemment, comme il prévoit tout, les gens sont venus le voir de manière sérieuse. Il a été condamné pour escroquerie, parce qu'il n'arrive pas à prévoir l'avenir, bien sûr. Ça montre combien les escrocs sont le reflet de l'économie de la société de leur époque.
Et c'est publié aux éditions L'Échappée. Pour ceux qui ont un cadeau en retard à faire, on va aussi parler avec vous, Anne-Sophie Le Chevalier, de la BD inspirée de la pensée de Daniel Cohen, le merveilleux Daniel Cohen. Comment les économistes en sont-ils arrivés à avoir autant de place dans le débat public?
Je ne pense pas que les économistes soient importants. Je ne peux pas penser un événement particulier où on pourrait dire ça, c'est vraiment les économistes qui l'ont voulu. En fait, c'est le moment où la société française fait l'expérience de l'alternance. Avant, on avait un équilibre qui était le pouvoir politique s'appuyait sur les énarques pour décider de ce qui était bien et de ce qui était mal. Et puis, on avait dans l'opposition des profs barbus qui disaient des choses à peu près inaudibles. Et les économistes étaient plutôt du côté des profs barbus qui réfléchissaient très abstraitement à beaucoup de choses très intéressantes, mais pas d'usage on va dire, courant pour la société. Et dans les années 80, l'alternance a fait qu'on a eu besoin d'un contre-pouvoir à la gauche, bizarrement. Et donc, du coup, les journalistes, les universitaires ont pris de l'importance. Et à l'intérieur de ça, comme on était toujours dans la crise économique, en effet, progressivement, les économistes ont pris de la place.
L'économiste Daniel Cohen, qui nous a quittés en 2023, là il était en 2012 sur France Culture. Anne-Sophie Le Chevalier, parlez-nous de cette BD rouge.
Alors cette BD, c'est effectivement une idée que le cofondateur de l'école d'économie de Paris avait eue avant sa mort. Il avait laissé un scénario et son éditeur a mené à bien ce projet avec les dessins d'Aude Massot. Dans cette brève histoire de l'économie, qui est très agréable à lire, Daniel Cohen utilise le personnage de sa fille et d'une déambulation qui commence par une visite du Louvre à Paris pour brosser donc cette histoire. On rencontre Karl Marx, Schumpeter, Adam Smith qui déboule dans les rêves de l'économiste pour dialoguer avec lui de concepts économiques. Tout y passe, la mondialisation, l'urgence écologique, la Chine, la quête du bonheur. Ça rend l'économie attrayante. Ça parle de l'interdisciplinarité parce que lui était agrégé de mathématiques et d'économie et convoquait régulièrement les autres sciences sociales dans ses livres. Et puis la transmission au plus grand nombre parce que là on contraste avec parfois des gros livres un peu rébarbatifs.
Oui, là, c'est pas du tout rébarbatif.
Voilà, et ça s'adresse aussi, je pense, à un public plus jeune et éventuellement des lycéens aussi.
Pour la fille de Léo. Ouais. Pour les filles de Léo. Allez, un dernier petit mot sur le livre de Julien Damon. Alors, la BD, elle est aux éditions Albin Michel. Hein. Et le livre de Julien Damon, vous nous en dites un mot, Sophie.
C'était cette année les 80 ans de la sécurité sociale. Alors, cette octogénaire qu'on traite de bien malade ou même anthropophage, puisqu'elle dévorerait ses petits-enfants, au cœur d'un modèle social qu'on dit à bout de souffle, condamné, qui s'effondrerait et dans l'impasse, et ben ce livre-là permet de se faire sa propre idée. Il est concis, pédagogique, assez accessible et pondéré. Et on peut notamment dresser le bilan des 8 décennies de la Sécu, une forte diminution de l'insécurité sociale, un allongement de l'espérance de vie à la naissance de 20 ans, une chute drastique de la mortalité infantile, et l'amélioration spectaculaire de l'état de santé, en particulier pour les plus modestes qui, sans la Sécu, auraient peut-être pas, ou en tout cas moins, eu accès au progrès médical.
Un petit livre vert fort utile aux presses de Sciences Po, signé Julien Damon. Allez, on a de quoi démarrer 2026, on s'arrête là. Christian Chavagneux, Léo Klim, Anne-Sophie Le Chevalier et Béatrice Mathieu, merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, passez de belles fêtes. On se retrouve l'année prochaine pour arpenter ensemble la planète Éco. Samedi prochain, le 3 janvier, c'est Emmanuel Duteil qui sera aux commandes du Mag Éco.